sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous. Elles sont des millions à devenir filles mères chaque année dans le monde. Il s'agit de très jeunes filles dont le corps n'est pas encore formé pour porter un enfant. Comment éviter les grossesses chez les adolescentes en Afrique et aux États-Unis? Ce sera l'objet de notre discussion avec notre invitée en ligne ici dans la région de Washington, Jeannette Kallegill, fondatrice et présidente de l'ONG ULOC, United for Love of Children, une organisation qui œuvre pour l'intégration sociale et économique des personnes handicapées. Bonjour madame et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors avec moi également dans le studio, ma collègue Esha Grover. Bonjour Esha.
Bonjour
Esha,
Nathalie.
Et merci d'être avec nous. Alors madame Kallegill, avant de débuter la discussion, Esha Grover va dresser un plan de la situation.
Merci.
De femmes.
Alors Richard, on vous écoute.
Oui, selon l'OMS, environ 16 millions de filles de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année, soit environ 11% des naissances dans le monde. 50% de ces naissances, donc 8 millions, ont lieu dans seulement 7 pays. Le Bangladesh, le Brésil, la RDC, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria et les États-Unis, selon l'OMS. Autrement dit, 50% surviennent en Afrique subsaharienne et 18% sont en Amérique latine. La grossesse à l'adolescence est un problème important qui a suscité de nombreux débats dans les années 90 aux États-Unis. Ces trois dernières années, les chiffres ont légèrement baissé dans le monde, mais le problème persiste dans certaines régions et certains milieux.
Alors Richa, vous avez quelques chiffres justement sur des pays en particulier?
Oui, bien sûr, des chiffres de la Banque mondiale. Le pourcentage des filles de 15 à 19 ans qui donnent naissance dans chaque pays. Des exemples de taux élevés, au Mali et en Angola, 17%, au Tchad, 14%, en Côte d'Ivoire, 13%, et au Burkina Faso et au Cameroun, 11%. Et certains pays avec les taux les moins élevés, notamment la Tunisie à 0,4%, l'Autriche 0,3%, la Corée du Sud 0,2% et la Corée du Nord 0,1%.
Alors curieusement, les données pour les filles de 13 jusqu'à 17 ou 18 ans sont presque impossibles à trouver.
Oui, et dans la plupart des communautés indigentes des pays en développement, les filles mères abandonnent généralement leurs études secondaires et leurs enfants grandissent comme elles dans la pauvreté. Par conséquent, les communautés avec plus de filles mères sont en général les plus pauvres et les moins éduquées, ce qui les rend extrêmement vulnérables. De plus, les adolescentes enceintes sont plus sensibles à la maladie et leur taux de mortalité est élevé, leur corps n'étant pas prêt à porter un enfant. Elles sont à la merci d'avortements mal pratiqués et sujettes à la dépression. Pauvreté, manque d'accès à l'éducation ou aux contraceptifs, pression familiale, mariage forcé, violence armée et politique entraînant des taux de viol élevés sont autant des facteurs contribuant à des grossesses précoces, sans oublier celui de l'absence d'éducation sexuelle.
Et pour revenir sur les États-Unis, les grossesses précoces y sont moins courantes que dans les pays en développement, mais ne sont pas des cas isolés.
Oui, et si la moyenne générale est de 3%, elle est de 4% chez les Hispaniques et de 3,9% chez les Africaines-Américaines, selon le département de santé de la gouvernement américaine. Quelques études montrent aussi que les adolescentes qui font des études et qui vivent dans des régions où les possibilités d'emploi sont nombreuses sont moins susceptibles de tomber enceinte. Alors, les deux émissions qui datent de 2009, 16 and Pregnant, disons 16 ans et enceinte, et Teen Mom ou Fille Mère, montrent qu'il s'agit bien d'un phénomène de société. Reste à savoir quels messages sont véhiculés à travers ces genres d'émissions et ce qu'ils dévoilent de la culture américaine.
Merci beaucoup, Isha. Alors, Jeannette Kahle-Gill, avant qu'on revienne un petit peu sur ces documentaires, ces émissions-là aux États-Unis, j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à tout ce que vous venez d'entendre globalement.
Je vous remercie. C'est vraiment un sujet assez préoccupant. Et c'est une bonne occasion d'en parler, de commencer à en parler, simplement parce qu'on parle de la fille, donc un peu de la femme. Et ces filles qui deviennent mères avant même d'être préparées, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elles nous, disons, elles créent déjà une situation où vous avez déjà des enfants qui vont se retrouver déjà mal éduqués et qui seront aussi un fléau pour la société. Donc, des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, comme leur mère, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que cela, crée de nouveau un autre, grenier de personnes qui ne sont pas vraiment aptes vraiment à vivre une vie décente. Donc, deviennent, un danger pour la société. Donc, de façon générale, et elle a vraiment touché du doigt, parce qu'avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut connaître la source. Donc, la source, c'était quoi? Le manque d'accès, à l'éducation. Donc, l'éducation étant vraiment la clé de tout succès. Donc, quand on cite un peu ces pays où le taux des adolescents qui sont assez jeunes, mais on réalise qu'elle se retrouve dans des zones vraiment où le taux de pauvreté est assez élevé.
Jeannette Kahle-Gill, restez avec nous. On revient vers vous dans quelques minutes.
Merci.
Entre parenthèses.
Interpol et l'OIM ont lancé le premier projet pilote conjoint pour combattre la traite des enfants dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana a adopté une loi sur la traite des êtres humains en 2005 et la Côte d'Ivoire travaille actuellement sur un projet de loi. En mars 2014, Interpol et l'OIM ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, y compris l'éradication de la traite des êtres humains. L'OIM fournira une aide à environ 80 enfants victimes de la traite dans le cadre de ce projet de 6 mois. J'ai joint Michele Bombassei, spécialiste de l'aide aux migrants, au bureau régional de l'OIM à Dakar.
L'idée, c'est d'utiliser l'expertise de l'Interpol, surtout, comme j'ai dit, sur l'aspect formation des capacités de la police, des ministères publics, des juges, dans les deux pays, et par contre de travailler avec la police, avec la société civile sur l'aspect lié à la protection des migrants, à l'identification des victimes. Ces deux composants sont un peu la partie plus innovative et plus importante du projet.
Alors pour le cas de la Côte d'Ivoire en particulier, qui travaille actuellement sur un projet de loi, vous attendez à quel type de coopération? Notamment, vous dites, l'OIM dit qu'il faut effectivement, et cela paraît logique, collaborer avec les planteurs de cacao et l'industrie elle-même.
Oui, mais même l'industrie, c'est une partie très importante du processus. Pendant les dernières années, il y a eu déjà à une prise de position très claire par les producteurs de cacao dans le secteur, les principaux. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans le soutien et sans la coopération de l'industrie du cacao. Maintenant, il faut arriver un peu plus loin et toucher même la base informelle qui donne la main-d'œuvre cette industrie. Donc, il faut s'engager au niveau des communautés. C'est pour ça que l'engagement, pas seulement des sociétés productrices, mais même de la société civile et de communautés locales, c'est très important.
L'OIM va fournir une aide à environ 80 enfants victimes de la traite, donc dans le cadre de ce projet de 6 mois, ce projet pilote. Est-ce que cela veut dire que vous parlez d'enfants qui sont déjà identifiés?
Non, pas encore. L'idée, c'est d'ajouter dans le cadre du projet, ajouter une initiative pilote qui a comme vous le soutien, l'assistance directe aux plus ou moins 80 enfants qui seront identifiés de la mise en place du projet. Donc, l'idée, c'est d'adresser les besoins, les vulnérabilités de ces enfants et mettre en place des réponses ad hoc pour eux sur la base de leurs vulnérabilités, sur la base de leurs besoins.
Vous écoutez le magazine au féminin de VOA Afrique avec Nathalie Barre. J'ai une invitée en ligne vers laquelle nous revenons, Jeannette Kalogil, qui est justement d'origine ivoirienne. Alors, Madame Kalogil, à propos des chiffres en ce qui concerne, nous revenons sur le sujet des filles mères. En Afrique, les chiffres sont... On n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire dans les statistiques de Isha, mais l'on a constaté sur ce rapport de la Banque mondiale que les chiffres en Côte d'Ivoire sont très élevés. Alors, comment vous expliquez cela vous-même?
Bon, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme je veux dire les autres pays, déjà... L'une des causes, il faut citer la pauvreté, le taux de pauvreté qui est assez élevé en Côte d'Ivoire. Et puis, ce qu'il faut aussi citer, c'est que avec les dernières crises que nous avons connues, n'oubliez pas que des jeunes filles ont été violées. Mm-hmm. Donc, il y a aussi le viol des filles durant toutes ces périodes-là.
Oui, ça, ce sont les chiffres 2013 qu'on a, effectivement. Mm-hmm.
Oui, pour 2013, mais bien avant ça.
Bien avant.
Comme vous savez, chaque fois qu'il y a des crises, et même avant les crises, ce sont des actes que les gens en fait perpétuent sur les jeunes filles et qui ne sont jamais signalés. Et puis vous avez aussi les mariages précoces. On en a aussi chez nous, un peu au nord. Et comme vous avez aussi les mariages un peu forcés. Donc tout cela fait que, disons, les jeunes filles mais bon. Le nombre, disons, s'accentue. Et vous avez aussi le fait, elle a signalé tout à l'heure, le manque d'éducation, disons, sexuelle.
Alors voilà, c'est ça, le manque d'éducation sexuelle, justement.
Et puis aussi, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un programme vraiment, disons, d'utilisation de préservatifs pour les jeunes filles. Disons, il n'y a pas vraiment un programme en tant que planning familial pour sensibiliser la jeune fille, pour qu'elle puisse un peu prendre conscience de ce qui se passe, quoi.
Alors, revenons sur les États-Unis. Vous vivez aux États-Unis. Vous connaissez ces émissions Teen Mom, 16 and Pregnant. Vous avez déjà regardé ces émissions?
Oui, j'ai regardé et puis j'ai suivi un peu ce que je sais. Baltimore, je pense qu'il y a une école à Baltimore où, disons, les jeunes filles mères sont prises en compte. Elles vont à l'école et puis elles peuvent aussi suivre un peu l'éducation de leurs enfants. Donc, oui, plus ou moins.
Donc, ça se fait aux États-Unis. L'on sait que ça se fait également en Grande-Bretagne. La BBC, notamment, avait réalisé plusieurs reportages à ce sujet-là. Et voilà. Donc, et quel regard portez-vous là-dessus, sur le fait que... Parce que, attention, on parle de jeunes filles. Il y a des jeunes filles, si on regarde ces reportages, des jeunes filles de 14-15 ans qui ont des bébés, Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est normal parce que on a des familles qui trouvent ça tout à fait normal, il faut le dire, aux États-Unis aussi.
Bon, aux États-Unis, si vous prenez un peu souvent certaines populations, c'est des choses qu'elles encouragent. Moi, j'ai des amis qui sont très jeunes, qui sont plus jeunes que moi et qui sont grand-mères, 2-3 fois, avec des enfants qui sont des adolescentes, qui ont déjà des enfants. Bon, évidemment, elles sont peinées, Mais il n'y a rien qui a pu se faire compte tenu du fait que nous sommes dans un pays quand même de droit et les enfants, ils ont tous leurs droits. Les enfants sont aussi protégés par, disons, les services sociaux. Mais c'est un phénomène quand même qu'il faut dénoncer et il faut trouver vraiment des solutions parce que c'est généralement ces jeunes filles-là, qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent enceintes. Évidemment, le système, je parle des États-Unis, le système leur apporte le concours qu'il faut. Et après, il faut qu'elles assument le plus souvent. Et c'est là où le résultat pour la société n'est pas du tout positif. Parce que quand vous voyez, c'est toujours le plus souvent dans les familles vraiment précaires que ces situations-là se passent. Donc ça veut dire que le niveau d'éducation de l'individu déjà est très limité. Donc l'individu maintenant qui met au monde un enfant, et comme vous savez ici aux États-Unis, disons le service social, disons la prise en charge médicale n'est pas vraiment à la pointe. Donc ce qui fait que ces personnes-là, bon d'abord il faut qu'elles travaillent, donc elles ne restent pas, elles ne sont pas soignées comme il faut lorsqu'elles accouchent, et il faut immédiatement qu'elles trouvent un travail pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins.
Oui, vous voulez dire qu'elles sont pas forcément bien entourées justement pour être soutenues en plus dans une telle situation.
Ouais. Moi, j'ai vu des cas où elles ne sont pas soutenues. Elles sortent de l'hôpital pour une maman qui vient de mettre au monde et sa préoccupation, c'est je dois aller chercher un boulot.
Oui.
Donc déjà, il n'y a rien pour déjà s'occuper de l'enfant. Les cas que moi j'ai vus, les enfants, il faut passer l'enfant à tel ami, à tel parent, parce qu'il faut garder l'enfant. Elle doit aller travailler pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc vous voyez un peu l'état dans lequel déjà l'enfant est éduqué.
Et là, vous parlez des États-Unis.
Je parle des États-Unis pour les exemples que moi j'ai vécu. Donc déjà, vous allez... Let's go. Make no excuses
now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Jeannette Caleguil, je suis vraiment désolée, on arrive au terme de notre émission, le magazine au féminin de VOA Afrique. Donc je rappelle que vous êtes Jeannette Caleguil, vous êtes d'origine ivoirienne, vous êtes la fondatrice et présidente de l'ONG ULOC, United for the Love of Children. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous auriez peut-être un dernier mot à dire avant de partir, mais très rapidement.
Oui, très rapidement, oui. À travers votre travail, votre boulot, la sensibilisation que vous faites, on peut établir un échange vraiment entre les jeunes filles africaines et puis les jeunes filles américaines. Ça sera très bien pour qu'elles puissent vraiment changer leurs expériences. Et puis l'Angleterre aussi, qui est un très bon exemple, qui a vraiment un programme. Si ça peut se faire vraiment dans ce sens-là, ce sera aussi très bien.
Merci beaucoup et c'est l'objectif.
Merci.
Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.
Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaoleza Mama, which simply means, hurry Mama, please, please don't let them catch you. Kaoleza mama, kaoleza mama, kaoleza mama, kaoleza mama, kaoleza mama, sheshi sawo, nanga mapoyi.